Maintenant, ça marche.
Cool. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Anna Wei, je suis la présidente de 9e Arrond Vienne. Merci tous d'être venus pour cette rencontre. Je voulais juste prendre un petit moment pour remercier le conseil départemental, la DRAC et la ville de Poitiers qui rendent possible ces rencontres pour nous. Je voulais également remercier nos partenaires pour cette rencontre, donc la librairie Bulle d'encre, Espace Mendes France et bien entendu Argos 2001, l'antenne de la Vienne. C'est ça ?
C'est ça.
OK. Donc si jamais vous aimeriez acheter un exemplaire de la bande dessinée Goupil au face après la rencontre, Bulle d'encre nous a fourni des exemplaires. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais également vous dire que 9e Arrond Vienne organise plusieurs rencontres. Donc au mois de décembre, le 13 décembre, on va avoir une rencontre au Dietrich, le cinéma, qui sera donc sur le film We Blew It et la bande dessinée Le Nouvel Hollywood. Au mois de janvier, le 17 janvier, on va avoir une rencontre sur les violences faites aux femmes qui est organisée avec la Maison des étudiants de l'Université de Poitiers. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook où vous pourrez trouver toutes les infos, je fais la petite pub. De ces rencontres et puis les autres rencontres qui viendront après. Je pense que j'ai fait le tour, c'est bon. Donc je vais passer la parole à Louloubi et à Aurélie et Julie. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. Donc, je vais vous parler d'Argos 2001, vous présenter l'association. Donc, en fait, Argos 2001 est une association nationale qui propose une antenne dans la Vienne. Enfin, une antenne s'est montée dans la Vienne il y a près de 15 ans. Et en fait, l'objectif de l'antenne d'Argos, c'est de proposer un soutien aux malades bipolaires, aux personnes qui souffrent de troubles de l'humeur et à leurs proches, à leur famille, à leur entourage. Donc en fait, ça se présente principalement sur deux points. On propose des réunions d'information qui sont encadrées par des médecins, donc une fois par mois avec des thèmes bien précis tout autour de la maladie, et également des groupes de parole à la fin de chaque mois qui sont des espaces libres de partage et d'échange. Si vous avez des questions par rapport à l'association, on pourra avoir ça à la fin. Vous pouvez vous renseigner sur le site Argos 2001, le site internet. Il y a une antenne, l'antenne de la Vienne est représentée sous forme de site et vous avez le calendrier avec toutes les interventions de l'association et également une page Facebook, éventuellement une page Twitter également si vous voulez vous renseigner et avoir les informations. Je vous remercie, je vais passer la parole à Louloubi.
Est-ce que ça marche ? Oui, super. Alors du coup, bonsoir à tous. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez tous déjà une petite idée de ce qu'est Goupil ou face, si vous l'avez lu. Du coup, petite session de rattrapage pour ceux qui ne connaissent pas encore, comme ça, on va pouvoir parler un peu voilà, de la bande dessinée qui fait que je suis assise ici ce soir devant vous, mais aussi de qu'est-ce que c'est que la bipolarité, qu'est-ce que c'est que la cyclothymie, puisque dans Goupil ou face, je parle d'une forme de bipolarité en particulier qui s'appelle la cyclothymie et donc qui va être représentée sous la forme de ce fameux petit renard. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on trouve dans Goupil ou face ? D'abord, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une fille qui, un jour, se rend compte qu'elle a un renard, qu'elle n'avait jamais vu jusque-là, donc il y a la rencontre, et puis qu'est-ce que c'est ? Comment il fonctionne ? Quels sont ses besoins ? Quelles sont ses envies ? Quels problèmes est-ce que ça peut poser de cohabiter avec un renard au quotidien ? Et donc, on va suivre un peu leur relation, voilà, qui va évoluer au fil du temps, de la rencontre, le rejet, s'apprivoiser, etc. Mais c'est aussi une histoire qui a un fond autobiographique, donc puisque le renard représente la cyclothymie, donc une forme de bipolarité, comme je vous le disais, et que je me suis basée sur mon expérience à moi de bipolaire pour pouvoir l'alimenter. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, donc ma légitimité à parler de bipolarité, c'est d'aller puiser dans mon vécu à moi. Et du coup, toute l'histoire va être émaillée de petites anecdotes, comme ici... mes extraordinaires rencontres avec des psychiatres et des psychologues qui sont plus ou moins réceptifs. Donc voilà, c'est un peu le fil qui va donner de la véracité et au moins de l'authenticité à l'ensemble. Au moins, on ne pourra pas me dire que c'est faux puisque je l'ai vécu. Mais surtout, le plus important dans Goupil ou Face, c'est que c'est un ouvrage scientifique. J'ai énormément lu, en fait, pour écrire cette bande dessinée, parce que quand on m'a diagnostiqué, donc on m'a dit « vous êtes cyclothymique », c'était là pas la première fois qu'on me donnait un diagnostic. Les précédents n'étaient pas forcément fondés. Du coup, j'avais un doute. Je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais entendu le mot. Donc, il fallait que je me renseigne, que je me fasse mon propre avis. Et je suis allée lire énormément de publications scientifiques faites par des psychiatres pour voir est-ce que ça correspondait, est-ce que je me reconnaissais dedans, et aussi pour être active dans le processus d'accompagnement, le processus psychologique. Donc, j'ai énormément lu, j'ai trouvé ça passionnant, mais par contre, c'était super chiant. Parce que moi, ce n'est pas du tout mon univers, la psychologie à la base. C'était des bouquins énormes. En plus, je les lisais dans un ordre qui était un peu aléatoire. Donc, des fois, il y avait des notions qui me manquaient, des choses que je ne comprenais pas bien. Ça parlait de molécules, ça parlait de traitements très complexes. Et j'étais un peu larguée. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage que pour acquérir ces connaissances, il faille se taper une pile de bouquins comme ça, écrits en tout petit, avec des tableaux, avec des symboles. Et clairement, je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de gens si on faisait l'effort de leur présenter de façon un peu plus ludique, parce que c'est juste passionnant. Et du coup, c'est la démarche qui m'a fait écrire Goupil ou Face, donc qui reprend toutes des données, des recherches qui sont les mêmes données scientifiques qu'on peut trouver dans ces publications-là, mais qui sont accessibles et surtout qui sont drôles, parce que bon, c'est autant faire quelque chose de sympa. Et là où je suis vraiment très très heureuse avec ce livre, c'est que il est lu aussi bien par des gens qui sont concernés par la bipolarité, que ce soit eux-mêmes ou leur entourage, mais aussi par des gens qui sont à 10 000 lieues de là et qui vont juste se renseigner. Et c'est une rencontre humaine qui se produit, en fait, de comprendre comment fonctionne une personne avec un trouble de l'humeur. Et c'est vraiment super d'avoir réussi à toucher des gens qui ne sont pas forcément concernés. Alors du coup, quand on ouvre le livre, tout est un peu mélangé, en fait. Donc là, c'est une des doubles pages qui réunit un peu tous ces ingrédients, où on a à la fois une partie un peu autobiographique. Donc là, je raconte une rencontre avec deux médecins qui étaient particulièrement peu réceptifs à la souffrance que j'avais à ce moment-là et aux questionnements que j'avais. Donc ils m'ont dit, mais vous êtes beaucoup trop jeune pour faire une dépression, comme s'il fallait avoir un certain âge pour être éligible à la dépression. Du coup, j'en profite pour amener quelques faits scientifiques. Donc ici sont les chiffres de la prévalence de la dépression en fonction des âges. Et on voit que même chez les enfants, la dépression existe, qu'elle n'est pas si rare que ça. Moi, sur ma colonne la plus haute, j'étais carrément dans la tranche d'âge où la dépression est la plus fréquente. Donc on peut se demander quel fait il peut bien y avoir dans cette phrase qui m'a dit que j'étais trop jeune pour faire une dépression. Et puis on a toujours l'histoire, la partie un peu narrative, fictive avec le renard. Donc ici, je parlais des crises d'angoisse, donc qui sont matérialisées par le renard qui vient dévorer le personnage. Et ça permet de garder en même temps ce fil continu un peu métaphorique qui permet de garder le lien avec cette histoire de renard sans jamais tout à fait s'égarer dans quelque chose de ou trop sérieux ou trop autobiographique. Du coup, je parle de cyclothymie, je vais vous en dire un petit peu plus, histoire de situer. Donc il faut savoir que la bipolarité, ce n'est pas une maladie, en fait c'est un spectre, donc on trouve des formes qui sont très différentes. La plus connue, la plus célèbre, parce qu'on la voit beaucoup à la télévision, dans les films, c'est la bipolarité de type 1, donc qui est la forme la plus intense, donc qui se caractérise par une alternance entre des phases dépressives graves, donc où on perd un peu l'énergie qui est très basse, donc c'est difficile de se lever, de faire des choses, l'humeur qui est très triste, très pesante, tout est très sombre. Donc dépression, c'est une maladie qu'on connaît un peu mieux. Et donc ça s'alterne avec des phases de manie, où là on a une élévation pathologique de l'humeur, où tout va très vite, on se sent très fort, on se sent surpuissant. Donc dans les manies, il peut y avoir un certain détachement avec la réalité, où les gens peuvent être un peu dans des délires un peu étonnants pour l'entourage. Donc ça c'est la bipolarité de type 1, donc c'est le plus connu. Ensuite, il y a la bipolarité de type 2, dont on parle déjà un peu moins, qui est la même chose, mais avec des phases un petit peu moins intenses. Alors, ça reste très pathologique, mais par exemple, dans les phases les plus hautes, ça ne va pas être de la manie, c'est de l'hypomanie. Et du coup, on n'a pas ce détachement de la réalité. On a quand même une humeur très élevée et qui peut faire des choses, avoir des comportements excessifs, mais on reste quand même les pieds sur terre. Donc, c'est un peu plus difficile à repérer, à diagnostiquer, puisque c'est moins spectaculaire, j'ai envie de dire. Donc la bipolarité type 2. Et ensuite, on a la cyclothymie, donc qui est aussi classée en bipolarité type 2,5. et dont la particularité, c'est que c'est très rapide, en fait. Donc, dans la bipolarité type 1 et 2, on est sur des phases qui peuvent durer des mois, voire même des années. Dans la cyclothymie, on peut avoir des phases qui durent quelques jours, voire même quelques heures, mais de façon très, très intense, avec des revirements qui sont complètement inattendus et déstabilisants, autant pour la personne que pour l'entourage. Et donc, on est vraiment sur une instabilité permanente, ne jamais savoir comment ça va être le lendemain, quelles ressources on va avoir, etc. Donc, c'est voilà, vraiment dans la problématique de l'instabilité. Alors du coup, on en parle assez peu. Je ne sais pas si vous aviez tous entendu parler de cyclothymie avant d'être confrontés ou à la conférence ou au livre, je ne sais pas. Mais j'ai souvent des gens qui ne connaissent pas le terme. C'était mon cas aussi quand on me l'a dit. Il faut savoir qu'on a quand même à peu près 6% de la population mondiale qui est cyclothymique, d'après des études qui ont été faites dans plusieurs pays. Alors dans cyclothymique, là, j'englobe à la fois des gens qui ont un trouble cyclothymique, donc de la famille des maladies bipolaires, et des gens qui ont un tempérament cyclothymique, donc des changements d'humeur intenses, mais pas pathologiques. Et on a à peu près 2% de la population qui est bipolaire, donc là, j'englobe aussi les bipolaires de type 1 et de type 2. Donc voilà, au croisement entre ces deux catégories se trouve le trouble cyclothymique, donc, dont parle Goupil Oufass. Alors du coup, on le connaît assez peu malgré le fait qu'il soit répandu. La conséquence, c'est que c'est super long à diagnostiquer. Bon, toutes les formes de bipolarité en moyenne sont longues à diagnostiquer, souvent confondues avec d'autres choses. En moyenne, en France aujourd'hui, c'est 10 ans, donc c'est super long. Et qu'est-ce qui se passe pendant 10 ans quand quelqu'un est atteint d'une maladie qu'il ne voit pas, quand il cohabite avec un renard sans le savoir? Et bien, c'est juste problématique à tous les niveaux de la vie. Bon, d'abord sur les plans professionnels, relationnels, où en fait on se retrouve, par exemple, très instable, pas pouvoir tenir une relation amoureuse dans la durée, à pas pouvoir rester dans un métier, avoir des problèmes de dépression à répétition, ou des excès qui font que ça ne marche pas, mais voilà, sans le diagnostic, on ne sait pas pourquoi. Le deuxième danger, qui est encore plus grave, c'est que quand on a des problèmes et qu'on n'a pas le bon diagnostic, on peut avoir des traitements qui ne sont pas adaptés, et certains d'entre eux peuvent aggraver la cyclothymie, en augmentant l'intensité des phases, en rapprochant la fréquence des phases, donc qui vont poser des problèmes sur le long terme. Alors ce sont censés être des traitements à la base, donc il faut faire très attention à avoir le bon diagnostic avant de s'engager dans une démarche médicale, enfin médicamenteuse. Et le troisième grand danger, bien sûr, c'est le risque suicidaire. Donc on est sur à peu près 47% des dépressions cyclothymiques qui sont suicidaires, donc de gens qui vont envisager, tenter ou réussir un suicide. Donc c'est pas une maladie à prendre à la légère, malgré le fait qu'on dise que c'est une forme de bipolarité atténuée. C'est quand même quelque chose qui peut, voilà, qui peut mener très loin et qui peut avoir des conséquences très très lourdes. Du coup, donc voilà, j'ai un peu fait le tour sur la bande dessinée. Moi, ma démarche ici, c'était vraiment d'informer les gens, de les emmener de tiens, je crois que ça m'intrigue, je ne sais pas exactement ce que c'est, ah, ok, j'ai compris comment ça se manifeste, peut-être que je suis concernée ou quelqu'un de mon entourage. Du coup, j'ai aussi fait un site informatif qui regroupe un peu donc, des informations sur la bande dessinée, évidemment, mais aussi une mini-encyclopédie sur la cyclothymie, donc qui reprend un peu les questions fréquentes. Comment ça se dépiste? Il y a des tests, notamment du docteur Antouche, qui sont utilisés en psychiatrie et qui m'a autorisé à reproduire. Donc ça ne sert pas à s'auto-diagnostiquer, mais juste à avoir une idée de est-ce que je peux être concernée ou pas, est-ce qu'il faudrait que je consulte un médecin éventuellement ou pas. Et voilà, plein de questionnements. Comment vivre avec un cyclothymique? Comment est-ce que ça se soigne? Quels sont les médicaments et tout? Donc voilà, ça balaye un peu toutes les bases et ça donne des pistes ensuite pour s'orienter vers des associations, vers des médecins, parce que bon, c'est pas mon rôle de diagnostiquer les gens, mais au moins de leur dire, voilà, si vous vous posez des questions, et ben ça existe. Et si vous pensez être concerné, creusez dans cette direction, parce que ça fait du bien de savoir ce qu'on est. Voilà, j'ai tout dit.
Oui, c'était bien complet comme présentation. Bon, alors moi, j'ai envie de vous poser la question que vous avez déjà eue au moins 432 fois. Pourquoi un renard?
Alors du coup, quand j'ai commencé à écrire Goupil Oufass, moi, je voyais un petit cerveau volant parce qu'en fait, je voulais juste matérialiser de façon physique la maladie et surtout la dissocier de la personne malade, parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on n'est pas du tout concerné, une personne bipolaire, bon, elle est fou, quoi. Enfin, voilà. Et c'est une globalité, une étiquette qui se pose sur toute la personne et qui fait que toute l'intégralité de son être est bipolaire, ce qui n'est pas vrai. Et donc, je voulais vraiment dissocier la partie personnalité, les choix personnels, le libre arbitre, donc qui est représenté par la fille, et la partie de la maladie, du trouble de l'humeur, qui est représentée par le renard. Du coup, j'ai cherché un animal qui pouvait se prêter à la métaphore. J'ai pas mal cherché. Je voulais quelque chose de petit, souple, rapide, parce qu'on est vraiment dans une notion d'instabilité. Et j'ai fini par aboutir sur le renard, qui a en plus les couleurs orange et noir qu'on va retrouver tout au long de la bande dessinée, ou en fait sur toutes les pages qui parlent de phase up. Ça va dans les oranges et ça s'enflamme, et c'est très chargé en couleurs. Et dans les phases plus sombres, bah, comme ici avec la crise d'angoisse, on est plus dans des couleurs noires, dans quelque chose qui est beaucoup plus lourd. Du coup, voilà, ça fonctionnait assez bien en termes esthétiques, aussi bien qu'en termes symboliques.
Et le fait qu'on ait du mal à apprivoiser un renard aussi.
Oui, c'est ça. En fait, je me suis dit, j'essaie de faire comprendre aux gens que, mais si vous aviez un renard, qui est un animal sauvage dans votre appartement et que vous ne le savez pas, bah, à chaque fois que les murs sont griffés, que les peaux sont cassées, etc., vous vous demandez forcément qu'est-ce qui s'est passé, et on vous dira, bah oui, c'est ta faute en fait, c'est forcément toi. Non, mais moi, j'ai pas cassé le pot. Et il y a vraiment ce côté cohabiter avec une créature qui est sauvage, qu'on ne peut jamais tout à fait apprivoiser, parce que le renard, pour le petit fun fact, le renard est un animal qui ne se domestique jamais à 100%. Donc il faut bien vivre avec, il faut se débrouiller, mais on sait que ce ne sera jamais gagné.
Pourquoi, qu'est-ce qui a été le déclencheur de cet ouvrage pour vous ?
Du coup, ouais, c'est vraiment ces lectures que j'ai faites, où je trouvais ça super intéressant, super passionnant, mais il y avait vraiment ce pont à faire pour que ce soit accessible, pour que ce soit drôle, enfin pour que les gens passent un bon moment à le lire. Et voilà, c'était vraiment le processus d'apporter ces connaissances scientifiques à un public bien plus large que juste les personnes qui sont concernées par la maladie. Parce que les personnes bipolaires finissent par accéder à ces connaissances d'une façon ou d'une autre, hein, elles font la démarche, mais c'est vraiment dommage que ça se limite à ce public-là qui est hyper restreint et que l'entourage puisse en profiter, qu'il y ait des difficultés à communiquer. Moi, j'ai souvent des lecteurs qui me disent ben, voilà, moi, je suis bipolaire, même de type 2, de type 1, et ma famille ne m'avait jamais comprise. Et du coup, je leur ai fait lire Goupil ou Face, et maintenant, on a une base, on a des métaphores pour communiquer, et on peut partir de là pour dire ben voilà, aujourd'hui, mon renard est comme ci, ou tu comprends, c'est un peu comme dans telle scène. Et ça sert vraiment d'outil, en fait. Pour comprendre, pour communiquer, pour rentrer dans un univers qui n'est pas forcément le nôtre.
Et Lou, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut parler de sa bipolarité librement ?
On peut, franchement. Faut assumer les conséquences. C'est très compliqué parce qu'en fait, c'est un terme qu'on entend beaucoup, bipolarité, et qui recouvre une espèce de... Enfin, pour beaucoup de gens, une réalité un peu fantasmée, qui a été façonnée par le cinéma, par des personnes très célèbres. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte. On a tendance à englober les gens dans quelque chose, dans un espèce de tout qui est complètement à côté de la plaque pour beaucoup de gens. Donc quand on commence à dire « je suis bipolaire », il faut être prêt à faire une explication d'une petite demi-heure derrière pour poser les limites de « oui, je suis comme ça, non, je ne suis pas comme ça ». Qu'est-ce que ça représente exactement ? Parce que c'est vrai que juste le mot lancé tout seul fait plus de dégâts que de bien, je pense, dans la plupart des cas. C'est un peu délicat. Du coup, moi, dans mon cas, c'est bon, c'est réglé, parce que les gens qui lisent la BD d'un bout à l'autre, voilà, mais je sais que c'est pas simple comme démarche.
Enfin, tu as été pas mal en contact quand même avec le corps médical, du coup. Est-ce que tu sens que ce genre de support, ça peut faire évoluer un petit peu l'approche que les médecins ont de la maladie avec leurs patients ?
Ouais, alors je sais que c'est un livre qui tourne beaucoup dans les CMP, dans les centres, dans les associations, parce que du coup, effectivement, ça permet d'avoir un support qui est facilement accessible, qui est ludique, qui peut même être donné à des enfants... Donc, qui permet de toucher un public beaucoup plus large et sans demander un effort excessif de la part de la personne qui va lire le livre. Donc oui, je pense que ça change un peu, ça sert pas mal. Et de toute façon, c'était le but, hein, donc tant mieux. C'est pas le seul but, mais j'avais vraiment envie que ce soit utile aussi. Donc,
Et par rapport au public jeune, tu me disais tout à l'heure que tu avais eu même un jeune de 11 ans qui l'avait lu. Qu'est-ce qu'il a pu te dire ? Qu'est-ce que tu as pu...
Ouais, alors c'est vrai que c'est...
avoir comme retour.
Ouais, c'est vrai que c'est très marrant parce que moi je l'ai fait en me disant bah, c'est une BD pour adultes, hein, ça aborde des termes qui sont quand même assez difficiles. Enfin, je parle de suicide, je fais des blagues sur le suicide. Enfin, voilà, ça parle de libido, enfin de baisse de la libido pendant la pendant une dépression. Donc c'est, enfin pour moi c'était un, vraiment un thème adulte pour un public adulte, surtout que souvent ce sont des troubles qui se révèlent à l'âge adulte. Donc à aucun moment je m'étais dit que je mettais une barrière pour les enfants, et en fait j'étais très surprise parce que j'ai eu souvent des jeunes lecteurs qui l'avaient lu, ça avait tourné dans toute la famille, puis c'est arrivé entre les mains de, d'un enfant de 11, 12 ans, et du coup je me disais, mais ça t'a plu, t'as bien aimé, et puis en fait ouais, parce qu'il n'y a pas de raison, en fait aucun propos n'est trop complexe quand on prend la peine de l'expliquer de façon simple. Et je pense que les enfants, en fait, prennent ce dont ils ont besoin, se raccrochent peut-être plus à l'image, à la métaphore, moins aux données scientifiques, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est... Voilà, ils arrivent, et puis des fois, ils ont fait des dessins du coup de renard, ils ont recopié, et puis ils me le donnent, et je me dis, ok, c'est quand même une lecture qui, avec laquelle ils ont passé du temps, qui les a touchés, et ben, je m'y attendais absolument pas, mais c'est une très bonne surprise en ce qui me concerne de me dire que ben, ça marche à tous les âges. J'ai aussi des lecteurs qui sont assez âgés... Des lecteurs qui ne sont pas du tout bande dessinée et qui commencent la bande dessinée avec ce livre, on sait waouh, je suis super flattée. Donc c'est bien parce que ça, voilà, c'est vraiment un ouvrage qui passe de main en main, qui se prête et qui est vraiment un support d'échange à tous les niveaux. Donc je suis contente.
Donc on parlait tout à l'heure aussi de parler librement de sa maladie, de ses troubles. Est-ce que tu penses aujourd'hui, avec l'expérience, qu'est-ce que tu vois le plus ? Est-ce que les gens sont plus bienveillants ou plus méfiants en général ?
Alors, je pense que mon point de vue est un peu biaisé, du coup, parce que j'ai effectivement la chance que, quand je dis que je suis bipolaire, j'ai la demi-heure après pour expliquer. Donc, je suis moins souvent confrontée aux réactions brutes. Et voilà, c'est moins timide comme démarche. Mais alors, dans ce que j'ai rencontré, les gens sont énormément bienveillants dans la majorité des cas. Ils sont curieux, ils sont réceptifs, bon, ils sont parfois très maladroits dans ce qu'ils disent, hein, ça arrive, mais il y a une vraie volonté de comprendre, de cerner ce que ça signifie et qu'est-ce que ça implique sur le vécu, bah, le mien par exemple. Après, il y a des gens, ce sont des gens qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont aucune intention de le lire et qui sont super agressifs. Ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'arrivait sur Internet notamment, où l'anonymat permet de certaines choses qu'on ne se permettrait peut-être pas en vrai. Où il y a notamment une personne qui m'a expliqué la vie, pourquoi je tournais autour de mon nombril et pourquoi je ferais mieux d'ouvrir un livre et de me cultiver au lieu de rester enfermée dans mes petits problèmes. Le tout expliqué de façon très pédagogique avec des numéros de chapitres dans son argumentation. Donc j'ai... Voilà, merci d'avoir pris le temps de me sauver, cher monsieur inconnu. J'ai eu aussi le cas de gens que j'ai pu rencontrer sur des salons qui n'avaient pas lu le livre et que le sujet n'intéressait pas et qui étaient clairement moqueurs ou cruels dans ce qu'ils disaient. Et en fait, ben, je sais que je ne peux pas toucher tout le monde de toute façon. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs. Je ne sais pas pour quelle raison. Je trouve que c'est juste très vache de s'en prendre à moi parce que je suis bipolaire. Ça ne se fait pas trop. Mais heureusement, c'est pas très souvent, donc voilà.
Non, mais c'est peut-être eux qui ont un problème, hein, juste.
Oui, mais c'est moi qui prends en face, donc bon. Mais voilà, donc globalement, c'est vrai que les gens sont plutôt réceptifs. Quand on prend le temps d'expliquer, les retours sont plutôt positifs, ouais. Donc ça vaut le coup quand même.
Oui, donc tu as déjà un peu répondu, mais je vais quand même te demander par rapport... tu as dû avoir quelques critiques. Je pense, enfin, peut-être pas, mais des fois, quand on sort un ouvrage, il y a quand même une certaine critique. Et comment on peut réagir quand, déjà, à l'intérieur de soi, quand on souffre de bipolarité ou de cyclothymie, on a des perceptions exaltées et donc on a les choses qui s'amplifient à l'intérieur de soi. Comment on peut réguler l'acceptation de ce genre de critique, en fait ?
C'est la cata, hein ? Ouais. Non, j'ai pas eu tant de critiques que ça, donc bon, je suis très contente. Les critiques que j'ai pu avoir pouvaient plus concerner le dessin, par exemple, qui est, c'est sûr, je dessine pas super bien, donc bon, c'est pas grave, je les accepte. Mais sur le fond, en fait, sur le propos que je tiens et sur la façon dont il a amené, personne ne m'a fait de reproche en particulier. Donc bon, j'étais plutôt...
Des critiques artistiques, mais pas... Enfin, esthétiques,
c'est ça,
mais
voilà. Voilà. Et pour le coup, je suis OP, il n'y a pas de souci. Ils peuvent trouver que mon dessin n'est pas hyper stable ou quoi, parce que, bon, voilà, je dessine comme je dessine. mais sur le fond, ça allait. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des critiques de temps en temps, et c'est sûr que ça touche énormément, mais bon, je le savais en le faisant que j'allais être confrontée à ça, et... C'est tout, quoi. Je déconnecte. Personnellement, j'ai tendance à prendre du recul. Quand c'est sur Internet, je lâche Internet. Et quand c'est dans la vraie vie, je m'en vais. Et juste pour avoir le temps d'absorber, de digérer la critique sans que ça me brûle. Mais on gère, quoi. J'ai la chance d'avoir un support qui parle à ma place et du coup, je ne suis pas trop en première ligne. C'est ça qui est intéressant aussi dans le métier d'auteur, c'est qu'on a le temps de réfléchir avant aux propos qu'on va tenir et de le tenir de façon plus claire. Ce serait plus compliqué, je pense, d'être conférencière, par exemple, et de venir vers les gens, d'expliquer de but en blanc ce que je dis dans le livre. Du coup, non, ça va, je suis à peu près tranquille.
Non, mais l'humour a des vertus thérapeutiques et des vertus pédagogiques. Donc, c'est vrai qu'utiliser l'humour à travers ta BD, ça met comme une bulle de... Ça peut protéger aussi.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça me permet aussi de ne pas tomber dans le pathos, chose qu'on pourrait reprocher si la bande dessinée était vraiment très triste. Bon, c'est moins universel aussi, parce que dire à quelqu'un « oui, moi j'ai beaucoup souffert », ça veut rien dire. La personne en face a peut-être pas la même perception des choses, elle a peut-être pas envie de me croire. Alors que passer par l'humour, voilà, ça permet de se raccrocher aussi à des sentiments qu'on connaît tous. Et c'est vrai qu'il y a des planches qui sont complètement second degré, tournées en dérision, alors que je suis en train de parler de suicide, mais la mort est sympathique dans la bande dessinée, enfin, elle est plutôt chouette. Et puis on peut discuter quoi avec la mort, c'est cool. Donc voilà, ça permet vraiment de dédramatiser et de faire un lien avec des gens qui sont peut-être pas du tout concernés ou qui n'ont pas du tout le même vécu, le même ressenti. Donc c'est un bon vecteur, je pense, pour aborder un sujet comme ça qui peut être extrêmement mal perçu quoi. Et puis c'est vrai que j'ai eu des lecteurs qui disaient ah non mais la bipolarité, ah non mais ça va être relou, moi je veux pas acheter un bouquin qui parle de ça, ça va être déprimant, je veux pas. Et en fait ils se laissaient convaincre parce que c'est une histoire marrante avec un petit renard qui est mignon et que voilà, il y a des Pokémon dedans et bah voilà quoi, c'est cool. c'est un bouquin cool, c'est pas un bouquin triste.
Sur le plan personnel, alors t'as pas été trop embêtée par des c'est pas grand chose alors, justement du fait de l'humour, du fait de dire les choses, c'est pas si rose que ça.
Non, c'est pas si rose que ça. Et puis en général, quand on met la carte suicide sur la table, les gens arrêtent de prendre les choses à la légère. C'est terrible de devoir en arriver là. C'est vrai qu'avant le bouquin, par contre, j'ai eu ce genre de réaction. J'ai eu des gens qui me disaient ouais, bon, en fait, on est tous un peu cyclothymiques, on est tous un peu bipolaires. Moi aussi, j'ai des hauts et des bas et j'en fais pas toute une histoire. Donc bon, prends-toi un peu en main, je sais pas. Et c'est vrai que bon, c'est un peu... C'est des réactions qui sont difficiles parce que ça minimise une réalité médicale, en fait. Je sais que mon cerveau ne fonctionne pas correctement sur le plan de l'humeur et je trouve ça terrible qu'on me dise c'est rien, débrouille-toi. Genre, il te manque une jambe, mais c'est rien, débrouille-toi, tu vois, c'est... Donc non, c'est vrai que c'est des réactions qui sont vraiment difficiles, que j'ai plus maintenant du coup, donc est-ce que ça change ça pour moi au moins, mais je sais que tous les autres qui sont encore dans le processus de recherche de ce qu'ils ont, ou même qui ont été diagnostiqués et qui sont confrontés à des gens qui sont pas toujours réceptifs, vont rencontrer des personnes qui vont leur dire que c'est rien, que c'est des caprices, etc. Et c'est juste terrible, mais ces personnes-là, c'est les personnes aussi à qui j'aimerais amener... ce bouquin-là, quoi, genre, lisez-le et vous verrez que c'est pas juste un caprice et que c'est pas juste être triste un jour et être joyeux l'autre jour, quoi, que c'est vraiment une réalité médicale et un impact sur la vie à plein, plein, plein de niveaux. Donc, faut en parler.
Le fait d'en parler aussi, ça réglera pas le problème de retard de diagnostic, mais c'est vrai que tu en parles beaucoup dans ta BD et... On se dit que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une solution au retard de diagnostic ? Les psychiatres toujours voudront assez de recul pour mettre un nom de diagnostic, quoi. Donc et traiter après et pas faire d'erreur.
Après, je pense quand même, après c'est aussi un point de vue très personnel, hein, mais je pense que les gens ont besoin d'être plus actifs dans leur processus de diagnostic, non pas de s'auto-diagnostiquer, parce que ça c'est potentiellement très dangereux, mais je pense que c'est important de se renseigner, de poser des questions, d'amener des éléments, de ne pas hésiter à remettre en question ce que dit un médecin et d'aller en consulter d'autres pour confronter les points de vue, parce qu'en fait, il y a tellement de pathologies existantes, ne serait-ce qu'au niveau psychiatrique, que personne ne peut toutes les connaître par cœur, c'est évident. Du coup, ça arrive de tomber sur des médecins qui ne sont pas renseignés, sur des gens qui disent vous êtes trop jeune ou même trop jolie pour faire une dépression, ce qui semble juste aberrant, mais bon, ça existe. Après, c'est aussi de la responsabilité de la personne qui consulte ou de son entourage de dire ben, il me semble que ça ne sonne pas tout à fait juste quand même. Peut-être que je vais prendre un autre avis, peut-être que je vais... Voilà, que je vais recouper mes sources, que je vais m'enseigner ou que je vais amener un bouquin en consultation en disant, ben voilà, j'ai lu cet ouvrage, il me semble que ça me correspond, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des centres spécialisés où je peux avoir un diagnostic sur ce point-là? Et je pense que c'est en fait, voilà, c'est vraiment un processus collectif. Il faut que les médecins se renseignent plus. Je ne sais pas quelle quantité d'informations un médecin peut absorber. Je sais qu'on se spécialise forcément. Mais il faut aussi voilà, que les gens aient moins peur, qu'ils aient moins peur de dire bah, « je suis peut-être malade, mentale ». C'est difficile à dire pour beaucoup de gens, hein, surtout à passer un certain âge. Où, je pense que les jeunes sont plus malléables parce qu'ils ont une identité en construction, mais j'entends souvent des retours de gens qui ont passé la quarantaine ou la cinquantaine et qui refusent complètement de remettre en question l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. En fait. Donc, hors de question de voir un médecin, hors de question de de s'interroger sur soi-même. C'est vrai que le retard de diagnostic tient aussi à la vision que les gens ont d'eux-mêmes, ont de la maladie mentale, que c'est très honteux, qu'il y a une part de responsabilité. Et c'est ces choses-là qu'il faut changer, en fait. C'est vraiment tout l'univers qui gravite autour de la maladie mentale qui est potentiellement un frein au diagnostic et donc à aller mieux.
Mais il y a un problème qui pose ce retard de diagnostic. On a parlé des risques qu'il pouvait y avoir pendant ces 10 années. Mais il y a également un problème, c'est que nous, on appuie beaucoup sur l'alliance thérapeutique, en fait, sur la confiance que va avoir le patient avec son médecin. Et inversement, le médecin peut-il faire confiance si le patient ne lui dit pas tout? Et ce problème d'alliance thérapeutique, il est complètement faussé quand on a comme toi des médecins en face de nous qui peuvent nous dire non, ce n'est pas possible. Et le lendemain, on va voir un autre médecin et c'est possible, et ainsi de suite.
Ouais, c'est hyper décourageant et c'est vrai que beaucoup de gens s'arrêtent dans leur parcours à un moment à cause de ça. Et c'est normal parce qu'on finit par en avoir marre. Moi, je crois que j'avais compté que j'en étais à 8 ou 9 spécialistes différents que j'ai consultés et on m'a diagnostiqué des choses qui étaient plus ou moins vraies, mais certaines complètement aberrantes. Hein. On m'a dit, il y a une psychiatre d'hôpital qui m'a dit les yeux dans les yeux, mais non, vous n'êtes pas bipolaire. C'est clairement, si vous étiez bipolaire, vous auriez acheté 2 voitures sur un coup de tête. Effectivement, j'ai jamais acheté 2 voitures sur un coup de tête, donc selon cette dame qui a fait plus d'études que moi et qui est mieux renseignée que moi, ben, c'était à écarter comme diagnostic. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué, il faut être hyper persévérant et faut réessayer. On est tous humains, après tout, ils peuvent se tromper aussi, on ne tombe pas forcément sur une personne qui matche bien, mais c'est vrai que faut avoir un peu d'obstination.
Moi, le truc, c'est que je ne sais pas si on pourra changer les médecins, hein, parce qu'un médecin n'aime jamais qu'on lui dise « mettez-moi ça sur l'ordonnance », et il faut suffisamment de points fidélité pour qu'au bout d'un moment, on puisse lui dire « le traitement, on pourrait peut-être le changer un petit peu parce que je ne me sens pas trop bien », et à ce moment-là, ils acceptent de changer l'ordonnance. Mais c'est vrai qu'au départ, ils n'aiment pas qu'on leur dise « je pense que je suis peut-être comme ci » ou « peut-être qu'il me faudrait ça ». Voilà.
Alors j'ai fini par avoir de la chance et en trouver qui étaient réceptifs quand même. C'est les derniers. mais non, je ne sais pas. Pour moi, la santé, c'est quelque chose qui se construit ensemble. On a autant besoin de l'expertise du médecin qui a une connaissance que clairement un patient n'a pas sur les médicaments, sur les effets et tout, mais on a aussi besoin que le patient soit actif. S'il subit le traitement, ça marche difficilement quand même. Il me semble que c'est un peu dur. C'est compliqué, il n'y a pas de solution de toute façon, mais on essaie de faire avancer les choses.
Alors, on parlait des traitements à l'instant. On peut également, je crois que tu voulais en parler des programmes d'éducation thérapeutique ou les choses qui existent, la psychoéducation, qui peuvent pallier justement et qui peuvent, associer à un bon traitement Il y a plein de thérapies alternatives ou de, comme l'art thérapie ou ce genre de choses qui peuvent donner du soutien et donner des clés pour avancer avec sa maladie.
Complètement, ouais. C'est vrai que j'ai régulièrement des gens qui me demandent quel médicament prenez-vous parce que je veux le même en gros. Et je réponds jamais parce qu'en fait c'est tellement personnel, on n'a pas les mêmes effets, on n'a pas les mêmes effets secondaires non plus, on n'a même pas tous les mêmes besoins. L'une des choses que je dis dans Goupil ou Face, c'est que la cyclothymie, donc c'est vraiment un trouble qui est à la frontière entre le tempérament dans les formes les plus douces et la pathologie dans les formes les plus fortes, et que tout le monde n'a pas forcément besoin de médicaments dans le cas de la cyclothymie. Et c'est vraiment quelque chose qui se voit avec le psychiatre, au cas par cas, en fonction de la personne. Et qu'il y a des choses... La psychoéducation, c'est essentiel, parce qu'il faut comprendre ce avec quoi on vit pour pouvoir vivre avec. Mais il y a des gens qui s'en sortent très bien avec de la méditation ou des choses comme ça. Ça dépend énormément des gens, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de médicaments de toute façon, mais ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, surtout dans les formes les plus légères. Donc... C'est tellement personnel qu'on peut juste pas répondre à ces questions-là, quoi. C'est entre les gens qui racontent, moi j'ai pris 10 kilos quand j'ai commencé le lithium, et ceux qui disent, non, moi rien. Enfin, c'est juste tellement personnel que j'ai pas de conseils, pas de réponses.
Il faut non, mais faut ça essayer, se développe. Ouais. Ça se développe de plus en plus. Je pense que les médecins ont conscience aussi que justement tout ce qui est méditation, mindfulness, le yoga, l'art thérapie, la sophrologie sont des méthodes alternatives et permettent justement de pallier, parce que les médicaments ne font pas tout. Les médicaments, ils permettent de stabiliser, mais après pour apprivoiser son trouble, justement mieux se connaître, c'est bien d'avoir une rétrospection et de faire des exercices sur soi pour avancer avec elle, tout simplement.
Ouais, complètement. Une chose que m'a dit le psychiatre donc, avec lequel je termine Goupil ou Face, qui m'a beaucoup marquée, c'est le but, c'est pas d'écréter et de me rendre plate en termes d'humeur. Le but, c'est juste de retirer le plus haut et le plus bas. Mais en fait, la variation, elle va persister, parce que la variation fait partie de moi, contrairement à la maladie qui est un peu l'expansion de ça. Mais en soi, c'est normal d'être variable. Et moi, avec le tempérament que j'ai, avec les données génétiques que j'ai, je sais que je suis naturellement plus variable que la plupart des gens, que la moyenne en tout cas. Du coup, il y a quelque chose... Enfin, en tout cas, dans ce qu'il m'a dit, il y avait quelque chose de très respectueux de cette essence de moi-même, où il disait, le but, c'est que ce soit pas pathologique, que ce soit pas dangereux, que les extrêmes soient moins extrêmes, mais c'est pas non plus de me réduire à une ligne plate. Et je ne sais plus de quoi en parler, mais mais c'est vachement important. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de lecteurs qui viennent me voir souvent après l'avoir déjà lu et qui viennent un peu partager leur vécu et poser des questions, etc. Et je rencontre fréquemment des gens qui ont peur des médicaments, qui ont peur des médecins, parce qu'ils me disent, on va me lobotomiser, je vais plus être moi-même, bref, je veux pas de médicaments. Et en fait, c'est une question de dosage, c'est comme pour tout, mais c'est censé être une aide pour être mieux soi-même. C'est pas censé être changer ce qu'on est, mais au contraire, accéder plus facilement à ce qu'on est sous la maladie, sans la maladie. Et du coup, ouais, c'est sûr que si on prend à trop forte dose ou si c'est pas le bon médicament, ça peut avoir des conséquences. Est-ce que c'est vraiment très grave ? En fait, il suffit d'être attentif, d'en parler avec le médecin et d'arrêter à temps avant que ça puisse être vraiment problématique. Mais c'est vraiment une démarche d'essais, d'échecs, et de recommencer, et voilà, d'expérimenter pour trouver le bon traitement. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Et du coup, ça fait beaucoup moins peur quand on est dans une démarche comme ça, de recherche, où il y a un respect de la personne qui est sous la maladie, plutôt que de dire on va tout écraser, on va en faire une personne... j'espère qu'aucun médecin ne dit ça, en fait. Ça serait terrible.
Mais c'est vrai que du coup, dans ta BD, moi, je trouve que... moi, il y a un moment donné où je me suis posé la question, mais en fait, qui on est entre la personne, la personnalité de départ, la maladie qui est à côté, qui vient se greffer dessus et qui a un effet sur nos actions, notre façon de penser. Je ne sais pas si c'est la bonne formule, mais ça agit sur notre capacité à penser, à réfléchir, à tout ça. Donc, au bout d'un moment, on se dit, mais nous, on est plus les médicaments qui agissent aussi sur nos actions et le fonctionnement de notre cerveau. Du coup, on se dit, qui on est là-dedans ?
Ouais, c'est vraiment très compliqué. Mais déjà, je pense, et d'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on voit en psychoéducation, c'est de ne pas se confondre avec la maladie. Ce n'est pas se sentir responsable de tout ce que la maladie implique en termes d'extrême. Je pense que c'est un bon début. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas complètement se détacher et la nier non plus, parce que ça fait partie de soi. Donc, je sais pas, c'est un tout, en fait. En ce qui me concerne, j'ai appris... Je sens, en fait, quand est-ce que je passe dans le pathologique ou quand est-ce que je suis dans l'extrême acceptable. Parce qu'on a tous des extrêmes. Ça nous arrive à tous d'être très heureux ou très malheureux, et c'est normal. Et je sens le basculement dans quelque chose de plus. Et pour moi, c'est là que commence la maladie. Et je trouve ça normal d'être variante dans mon quotidien. Parce que, de toute façon, je connais que ça. En fait, j'ai du mal à m'imaginer plus stable. Mais ça me va très bien, en fait. Ça fait partie de mon identité. Par contre, ça me dérange que ça arrive dans des extrêmes où je peux plus bouger, je peux plus sortir de chez moi, je peux plus rien faire, je suis nulle, j'ai pas de talent, et de toute façon, voilà, tout est foutu. Ou à l'inverse, partir dans des projets complètement dingues et voilà, et aller très très vite, et au point que les autres arrivent plus à me suivre. Et là, je sens vraiment le passage de l'extrême au pathologique, en fait. Je pose là la limite, mais je pense que c'est une question très très personnelle.
Oui, mais c'est vrai que même après, l'entourage peut se poser des questions et nous dire ça, c'est non, ça, c'est pas normal quand même ce que tu fais. Ah bah si, ça fait partie de moi. C'est normal que je sais pas moi que j'ai envie d'aller faire les magasins, dépenser un peu d'argent. J'ai tendance à être un peu dépensière. Ouais, bon, là, c'est normal.
Oui, ils peuvent très bien mettre des choses sur le dos de la maladie qui en fait relève du tempérament. Ça, tu l'expliques bien aussi qu'on a tous un tempérament différent
ouais,
et que.
Ouais, ouais. C'est vrai que c'est compliqué de l'extérieur, j'imagine, encore plus. je sais pas, ça s'apprend. Et puis, c'est... Enfin, encore une fois, l'idée de vivre avec un renard simplifie vachement les choses parce que, de toute façon, le renard, il est là, il faut bien le nourrir. Et c'est normal qu'il déborde à certains moments parce que c'est dans sa nature de renard. Donc, il faut faire attention à lui, mais il n'y a pas non plus... On n'est pas obligé d'y mettre une notion de culpabilité, on n'est pas obligé d'y mettre une notion de « c'est mal ». Est-ce que c'est vraiment si grave que ça de faire une crise d'hypomanie et de dépenser trop d'argent dans j'en sais rien, des voitures, pas pour reprendre un exemple que je déteste. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça ? Est-ce qu'on peut pas soit l'éviter avant, soit après coup venir réparer les choses ? Enfin, c'est... Ça fait partie des recettes que chacun trouve pour pallier à ces extrêmes-là, mais je sais pas, je pense que c'est... Voilà, apprivoiser le fait d'être malade, c'est aussi accepter que ça puisse foirer de temps en temps, quoi.
C'est accepter sa maladie.
Oui, c'est ça. Enfin, je connais des gens donc, qui ont des problèmes de dépression, pas forcément bipolaires, mais qui ont des problèmes de dépression récurrentes et qui laissent tout tomber, qui s'enferment et rien ne va plus. Enfin, dépression, quoi. Mais du coup, je pense que ce qui est vraiment problématique, c'est pas tellement de descendre à un instant T où en fait on n'y peut rien, ça arrive, c'est comme un accident, quoi. Mais c'est de s'enfermer dedans en se sentant coupable. Et en ayant aussi éventuellement la culpabilité des autres, tu fais aucun effort, tu t'en sors pas. Et du coup, ces gens peuvent rester plus longtemps dans un état d'enfermement et de prosternation, enfin de refermement sur soi, alors qu'ils pourraient démarrer s'il n'y avait pas cette notion de culpabilité. Donc, je sais pas. C'est vraiment à accepter beaucoup de choses à beaucoup de niveaux.
En tout cas, ton ouvrage est résolument optimiste. Et en fait, il nous montre, après lecture, qu'on peut essayer d'apprivoiser, même si on dit que le renard n'est pas un animal qui s'apprivoise, au moins là, on peut essayer d'apprivoiser sa maladie. Et en fait, est-ce qu'il est possible de rendre sa maladie moins sauvage ? Oui, c'est ce que tu démontres dans le livre.
Dans une certaine mesure, oui. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des choses qui restent en suspens après l'écriture de cet ouvrage ? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas voulu aborder, que tu aimerais aborder dans un nouvel ouvrage qui continue sur le thème de la bipolarité, ou est-ce que tu penses avoir fait quelque chose de complet
Ouais, alors forcément, il me reste énormément de questionnements, mais pour moi, ce sont des questionnements personnels, en fait. C'est comment, moi, je vais imbriquer ma vie sur tel ou tel point qui peut être plus complexe. Et en fait, j'ai assez de parler de moi. En ce qui me concerne, pour la suite, je veux faire des BD qui parlent d'autre chose que de moi. Et parce que voilà, moi, la démarche que je voulais vraiment avoir dans celui-là, c'était amener les gens de « je crois que j'ai quelque chose qui cloche parce que je ne vais pas bien » à « je suis cyclothymique, ça veut dire ça, ça et ça, je peux m'en occuper de cette façon-là ». Et voilà, à partir de là, en fait, c'est qu'un début, c'est le début de vivre bien avec le renard. Mais ce n'est pas un chemin que j'ai envie de faire avec les lecteurs, parce que je pense que c'est extrêmement personnel. Et mes solutions, mes problématiques et mes solutions ne sont pas aussi universelles que ce parcours qu'on fait tous à un moment donné, de se poser des questions, d'aller voir des médecins, d'avoir des mauvaises réponses, de se remettre en question, puis de retourner voir des médecins et entre-temps de souffrir pas mal. Et où les étapes, enfin, beaucoup de gens se reconnaissent dans cet ouvrage-là. Je ne suis pas sûre que les gens se reconnaîtraient autant si je racontais la suite, en fait, l'adaptation de ça à une vie individuelle et particulière. Donc non, pas de suite, mais d'autres livres très cool.
Bon, je pense que nous, on a fait le tour. On va peut-être laisser la parole au public si vous avez des questions.
N'ayez pas peur.
Tout était très clair, ils n'ont rien à demander.
Quelle place ont les proches dans ton bouquin? Je ne les vois pas beaucoup.
Ouais, alors c'est volontaire. Non, c'est volontaire parce que je voulais vraiment axer sur la compréhension de la maladie. Donc en fait, le seul personnage secondaire qui est vraiment présent, c'est mon compagnon, parce que c'est difficile de passer à côté. Mais en fait, il incarne un peu à lui tout seul tous les proches bienveillants pour le coup. Mais il y a quand même cette page, notamment, où je l'imagine avoir toutes les réactions qu'on peut avoir quand on dit « mon amour, je suis bipolaire », et où en fait, il y a les gens très paternalistes, les gens qui rejettent, genre « mais je veux surtout pas que tu files ça à mes enfants, donc ciao, quoi, on s'arrête là ». Et voilà, toutes les réactions qui passent un peu par lui, donc c'est un peu une projection à lui tout seul de tous les proches que tous les gens pourraient avoir. Après, là où j'ai décidé de pas trop parler des proches, c'est que il me semble que j'étais pas très légitime à parler au nom de ma famille ou de mes amis, que ça aurait été juste super vache de les projeter comme ça sous le feu des projecteurs en disant ça vous l'avez bien fait, ça vous l'avez mal fait. Je pense que voilà, je suis plus à l'aise avec cette démarche en ce qui concerne les médecins parce qu'ils sont complètement anonymes, mais j'ai pas envie que j'ai des parents, des cousins ou des amis qui se sentent visés, qui se sentent malmenés par un livre parce qu'ils n'ont pas de moyens de se défendre en fait. Donc j'estime qu'en tant qu'auteur, c'est mon devoir aussi de les protéger, de les mettre à l'écart, c'est leur vie personnelle en fait. Voilà, ça reste donc très théorique, mais c'est pas que c'est pas important. Allez, soyez curieux, quoi, je sais pas.
Du coup, je vais en poser une. Tu as dit qu'il n'y aurait pas de suite, mais qu'il y avait plein d'autres BD cool qui arrivaient. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, pas beaucoup, parce que je suis une grande cachotière et j'aime pas faire des promesses que je tiens pas. Du coup, je préfère, par prudence, pas trop en dire. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai des projets en fait, qui mûrissent depuis très longtemps et où je me sens de plus en plus prête à les mener, où d'un côté, j'ai envie de continuer dans cette démarche de me renseigner sur un sujet pour en faire après une bande dessinée qui soit fun, qui soit intéressante, qui soit ludique à lire. Et où, du coup, j'ai envie de continuer, pas forcément des BD didactiques, hein, parce que ça peut être des histoires, mais j'ai envie de continuer ce travail d'enquête pour en faire des bandes dessinées qui ont un fond, un aspect documentaire. Et alors d'autre part, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais j'aime pas beaucoup dessiner. je me sens très limitée en fait dans mon dessin parce que je sais faire ça et je sais pas tout faire. Et alors du coup, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des dessinateurs et c'est vrai que je commence à avoir des projets en collaboration avec des dessinateurs où je vais moi plus m'occuper du scénario et où ça m'intéresse énormément de développer des histoires, notamment des mythes. J'ai envie de réécrire un mythe. Donc le mythe d'Orphée, rebasculant tout dans un univers très différent. Et j'ai un illustrateur qui est prêt à me suivre là-dessus. Donc c'est au tout début encore, mais j'aimerais bien que ça voie le jour. Donc voilà, donc dans des genres très différents. Mais c'est vrai que je suis pas... je suis pas l'âme d'une dessinatrice, en fait. C'est quelque chose qui peut paraître un peu étrange, vu que c'est mon boulot. Mais ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est vraiment plus le fait de pouvoir communiquer. En fait, je me dis, si j'avais fait ce livre, Goupil ou Face, en roman, beaucoup moins de gens l'auraient lu et il circulerait beaucoup moins parce que ce serait moins abordable. Du coup, le fait de faire des dessins, ça rend les choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus universelles, beaucoup plus marrantes, et donc j'aime bien. Mais c'est vrai que je suis moins dans une démarche esthétique dans le dessin. Pour moi, c'est vraiment un vecteur de communication. Donc si d'autres gens peuvent faire la partie esthétique pour moi, je prends.
Est-ce que c'était compliqué de trouver un éditeur pour
une galère terrible. Ça a été très très difficile. Donc c'est pas mon premier livre, hein, j'en suis à 6. Donc on pourrait croire qu'au bout de 5, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que moi je suis d'origine réunionnaise et les 5 premiers ont été édités à l'île de la Réunion où j'ai ma petite notoriété, c'est plutôt confortable. Mais c'est vrai qu'une fois revenue dans le grand bain de l'édition en métropole, et ben en fait personne ne me connaît. Et personne n'avait lu mes livres, etc. Et ça a été très très compliqué parce qu'il a fallu que je refasse tout le chemin depuis le début, en fait, envoyer les dossiers qui ne sont pas lus, etc. J'ai eu la chance d'être financée par le CNL. Donc je me suis dit, bah cool, si le CNL croit en mon projet, c'est qu'il y a bien un éditeur qui va le prendre. Et ben non. Et j'ai tapé plein de portes et ça n'est jamais arrivé à destination jusqu'à ce que je tombe donc sur Vendry qui s'occupe des éditions Vraoum. Et qui m'a répondu du jour au lendemain, il m'a appelé, il m'a dit c'est super, est-ce qu'on peut se voir pour en discuter. Et c'était un an après mes démarches, enfin, ça faisait un an que je galérais, que je ne trouvais pas d'éditeur, donc ça a été difficile, même émotionnellement, de pas avoir de réponse le plus souvent, c'est même pas des rejets, le plus souvent c'est juste ça tombe dans le vide. Et voilà, et ça a été un super coup de cœur pour lui et pour moi, et on a vraiment travaillé à deux sur le projet, où il a vraiment amené énormément dans le livre, et donc je suis super contente que ça finisse par atterrir entre ses mains parce que je me dis qu'il aurait peut-être été moins bien traité par un autre éditeur. Mais
je peux poser une autre question vite fait, comme voilà. Est-ce que tu penses la faire traduire?
Et c'est en cours.
Cool.
Le mois prochain, je suis en Italie pour la sortie donc, de la version italienne qui s'appelle La Mia Ciclotimia à la Coda Rossa. Ça. Je ne parle pas du tout italien, mais je trouve ça super chouette. Ça va être plus compliqué pour bavarder avec les gens, mais voilà. Puis alors, il y a une version coréenne qui est en cours, en Corée du Sud, hein, parce qu'au Nord, je pense que ce n'est pas dans leur top priorité. Et peut-être espagnol, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, ça commence à naviguer, ça commence à faire son chemin. De ce que j'ai compris des articles en italien, la réception a l'air d'être plutôt bonne chez les voisins. Donc, c'est bien, c'est bien.
Est-ce que écrire cet ouvrage t'a permis de canaliser le renard? Et quelle place a-t-il encore aujourd'hui? A-t-il la même place qu'avant?
Alors, de canaliser... Pas du tout, en fait. J'ai même failli laisser tomber, parce que je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai vraiment fait dans un but de psychoéducation pour le public. Et je me suis dit à plein de moments, mais en fait, j'en ai pas besoin, je vais être super exposée, j'ai pas envie d'être exposée, en fait. J'ai eu des moments un peu difficiles, d'ailleurs, parce que des fois, la réception est un peu compliquée, et j'aurais préféré être tranquille... Donc non, ça n'a pas tellement canalisé. Par contre, ce que ça change, c'est que maintenant, je sais qu'à chaque fois que je vais sur un salon, à chaque fois que je vais dans un festival, tout le monde sait que je suis bipolaire. C'est quand même pas toujours évident, mais ça fait un sujet de conversation intéressant. Ça occupe au dîner. Non, mais c'est... Voilà, je me suis posé plein de questions, notamment pendant l'écriture. Je me suis dit, la prochaine fois que je postule pour un job dans une boîte, ils savent qu'ils vont recruter une personne qui a une maladie mentale. Et je ne suis pas sûre que ce soit un super atout quand on postule, surtout que ça ne se voit pas forcément. Donc j'aurais pu le cacher sans problème, au moins le temps de l'entretien. Et je me suis dit, mince, je suis un peu en train de me tirer une balle dans le pied. Donc j'ai intérêt à être une super bipolaire après, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Bon. Globalement, ça va. Les gens sont plutôt... Ouais, quel courage, plutôt que de dire ah non, on ne veut surtout pas d'une personne malade, c'est une catastrophe. Voilà. Peut-être que je remplis les quotas un peu aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je préfère le prendre avec humour. Ça change des choses, mais non, ça va.
J'aurais simplement voulu savoir à partir de quel âge vous avez commencé à vous sentir différente.
Assez Je sais pas, je pense que tout le monde se sent différent, donc je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à démêler. Je sais que les troubles ont commencé pour moi vers 16 ans, mais c'était vraiment un problème de dépression en fait. À la base, j'avais pas du tout identifié de phase haute ou d'humeur variable ou quoi que ce soit, parce que je pensais que pour moi tout le monde était pareil. Par contre, les dépressions étaient problématiques, étaient récurrentes et étaient de plus en plus sévères au fil des années. Et voilà, pour moi, c'est ça, vers 16 ans. Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vers 16 ans, j'ai fait une dépression, je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. C'est plus tard, quand c'était devenu un problème évident et vraiment très lourd, qu'en revenant en arrière, en relisant les choses que j'avais pu écrire à cette époque, je me suis dit, bah, OK, c'est celle-là la première. Elle était plus légère, parce que c'était la première, mais je pense que c'est là à peu près que les troubles sont apparus. Voilà. C'est quand même assez terrible de me dire que je m'en suis pas rendu compte, ma famille s'en est pas rendu compte, mes amis s'en sont pas rendu compte, j'ai fait une dépression et personne l'a vu, quoi. Ça fait se poser des questions un peu. Enfin, je ressentais forcément un mal-être, mais j'aurais jamais dit que ça puisse être une maladie, mettre un nom dessus, pas du tout. Enfin, on m'a dit, bah, t'es ado, tu fais ta crise d'ado, quoi. Et c'est passé comme ça très bien, et j'ai fait, bah oui, effectivement, je suis ado, je suis au lycée, c'est pas facile, bon, bah tant pis pour moi, quoi. Alors que j'aurais peut-être pu gagner un peu de temps si j'avais commencé à ce moment-là. Bon, les choses sont comme elles sont. Voilà, c'est pas très grave.
Est-ce que ça devient une maladie lorsqu'on met un nom dessus ?
Non, c'est une maladie bien avant que le nom soit posé, je pense. Je me rappelle, avant donc, d'avoir le diagnostic, et dans des phases où j'étais dépressive, mais suicidaire, vraiment super à la limite, où je le sentais que j'étais malade et j'avais pas besoin, enfin j'avais besoin que ce soit nommé pour pouvoir comprendre ce que c'était. Je me rappelle à cette époque la métaphore que j'utilisais beaucoup, c'était plus une baleine, une grosse baleine noire, parce que je le percevais que dans les phases basses. Et je me disais, mais je sens qu'il y a quelque chose, je sens que c'est présent et en fait personne me dit ce que c'est et du coup ben je suis malade et personne m'aide, quoi. C'est terrible. Donc au contraire, on est moins malade quand on a le nom, parce qu'on le subit plus, parce qu'on peut l'affronter, parce qu'on a des armes, ne serait-ce que parce qu'on peut arriver devant un médecin et dire, bah voilà, je suis cyclothymique, donc bipolaire de type 2,5, ça veut dire ça, 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 j'ai déjà eu ce parcours, et du coup, bah, j'ai besoin d'aide sur tel ou tel point. Alors que quand on arrive en disant, bah, ah, tout va mal, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pire, en fait, c'est vraiment pire. Donc ouais, pour moi, mettre un nom, avoir un diagnostic, c'est quelque part commencer à être moins malade.
Et moi, j'aurais voulu rebondir par rapport à l'attitude des médecins et où justement vous expliquez que vous avez ressenti, sans les comprendre, des prémices de cette maladie à un âge assez jeune, mais que vous n'aviez pas les clés pour l'expliquer non plus. Donc la part de responsabilité des médecins n'est pas forcément... aussi grande non plus d'essayer de comprendre quelqu'un qui ne peut pas expliquer ce qu'il a.
Ouais, et puis alors, la première fois, je n'ai pas vu de médecin. Hein,
Oui, vous avez mis du temps.
C'est ça. J'ai vraiment mis du temps avant déjà de me dire, ben, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, parce que ben, la première fois, on ne va pas voir un médecin pour une crise d'adolescence. Hein, c'est ça. Et puis non, c'est vrai que ça prend du temps aussi à soi d'identifier les problèmes et... Par exemple, sur les phases hautes, donc la bipolarité, c'est le fait d'avoir des phases hautes en plus des phases basses, mais moi, je ne les ai absolument pas vues. J'aurais été incapable de dire, ben, des fois, je vais trop bien, parce que ça paraît absurde, en fait. Et c'est une psychologue donc, qui fait des thérapies cognitives et comportementales qui, quand je suis venue en disant, ben, ça va mal, je suis dépressive, pour le coup, j'étais assez sûre que c'est une dépression, elle m'a dit, est-ce que vous avez aussi des phases hautes ? Et c'est avec elle qu'on a fait le processus d'aller analyser le vécu passé, analyser ben, mes changements d'humeur. Il y a une page dans le livre notamment où j'ai remis les croquis que j'ai fait quand elle me l'a demandé, où je notais jour par jour, voire heure par heure, l'état dans lequel je me trouvais et où je me suis rendu compte que j'étais arrivée devant elle en lui disant je fais une dépression, mais en fait mon humeur n'était absolument pas tout le temps bas. Ça faisait vraiment des pics, mais parfois des pics complètement absurdes et qui ne s'expliquait pas dans le cadre de l'image que j'avais d'une dépression où j'imaginais ben, fond du lit, 3 mois, et on ne bouge plus. Quoi. Et en fait, moi, ce n'était pas mon cas. J'avais des phases très, très basses, et puis tout d'un coup, un pic vers le haut. Et c'est ça qui a fait que ça lui a mis la puce à l'oreille et qu'on a recherché ensemble si ça pouvait être un trouble de l'humeur. Et c'est elle qui me met sur la piste, en fait, du trouble de l'humeur, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on... Enfin, si on ne sait pas quoi chercher, Quand on est médecin et que quelqu'un arrive pendant un quart d'heure en face de soi en disant « ben, je suis triste », forcément, on pense pas forcément à tout le panel de raisons qui peut faire que c'est une dépression. Donc c'est vrai qu'il faut être suffisamment renseigné du côté du professionnel de santé, psychologue, psychiatre, pour poser ces questions-là, pour dire « est-ce que vous auriez pas aussi des phases hautes ?» Ah bah ouais, peut-être. C'est vrai que je me rappelle de cette période où j'étais un peu haute. Et puis c'est vrai que hier, j'allais super bien alors que je suis quand même dépressive. Donc effectivement, on va creuser de ce côté-là et on va essayer d'identifier la problématique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une responsabilité partagée, en fait. On fait le parcours avec les médecins. C'est pas les médecins qui vont venir nous chercher dans notre mal-être et nous dire « hop, telle étiquette, voilà, ça marche pas du tout, quoi. » C'est vraiment un processus collectif, collaboratif.
Alors, j'ai une toute petite question pour les néophytes en biologie. Qu'est-ce qui se passe physiologiquement, en fait ? Pourquoi, à certaines périodes de la vie, ça commence à apparaître ? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones ou autres qui fait que, effectivement, on peut devenir bipolaire, cyclothymique ?
Alors, du coup, je vais répondre avec des grosses pincettes parce que d'une, je ne suis pas médecin, donc la vision que j'en ai est largement métaphorique. Plus que scientifique au niveau de ce qui se passe. Et puis même, je pense qu'en dans la recherche, on n'est pas sûr à 100% de toutes les causes. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu lire, il y a encore beaucoup de zones qui restent floues. Le cerveau, c'est une région du corps qui n'est pas facile à étudier, hein, par rapport aux pieds, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a encore du chemin. Vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, mais... Mais du coup, voilà, c'est quand même quelque chose à prendre avec des pincettes. Après, en termes de recherche, là où on est absolument sûr qu'il y a une composante génétique. Chose qui se vérifie quand on regarde un arbre généalogique d'une personne bipolaire. Ça fait partie des choses qu'on va analyser pour essayer de déceler la trace d'un trouble de l'humeur. C'est que généralement, on retrouve dans la famille soit des personnes qui ont été diagnostiquées ou qu'on peut soupçonner d'avoir un trouble de l'humeur. Pas mal de suicides, pas mal de dépressions, de divorces, de remariages, etc. Donc c'est tout plein d'indices qui permettent de deviner ce facteur génétique. Après, avoir des parents ou des proches bipolaires ne veut pas forcément dire qu'on va l'être. Je sais que dans les cas, il y a souvent des déclencheurs extérieurs, ou un mal-être ambiant, ou un accident de la vie, hein, qui va en fait brusquement accentuer une variation qui était peut-être présente, mais de façon plus douce. Je pense qu'il doit y avoir des porteurs sains, entre guillemets. Enfin, c'est un terme un peu...
Non, mais tu parles de facteurs environnementaux qui sont même prépondérants, enfin, plus importants, limite, que l'épigénétique, en fait. Le facteur environnemental, il est très, très présent au niveau de la maladie. C'est-à-dire que s'il y a un accident de la vie, comme tu dis, ou un traumatisme, c'est ça, souvent, qui va déclencher, en fait, l'apparition de la maladie. Plus que... Après, oui, il y a des porteurs... Enfin, il y a des gens qui vont avoir peut-être une prédisposition, ouais. Mais qui ne vont pas forcément ouais. Le déclarer.
C'est ça. Et puis même au fil de la vie, en fait, ça peut beaucoup évoluer. Ça peut évoluer, notamment avec des traitements pas adaptés, ça peut aggraver. Avec des traitements adaptés, ça peut au contraire beaucoup stabiliser. Je sais qu'il y a, voilà, y a des gens, des histoires de gens qui racontent que après la grossesse, ça s'est déclenché ou ça s'est aggravé ou qu'avec l'âge, les troubles sont de plus en plus présents. Donc c'est vraiment une maladie qui évolue avec le temps, qui peut évoluer de façon positive ou négative selon ce qu'on en fait, selon les cicatrices que ça laisse aussi, parce que quand on est bipolaire et qu'on gère pas bien et que du coup on perd son boulot, on perd son conjoint, on se retrouve seul, forcément c'est plus difficile à gérer et ça peut s'aggraver. Alors que si on est bien entouré et si on est si on se stabilise aussi hein, sur un plan professionnel, relationnel, enfin qu'on est bien avec soi-même, on a plus de chances que les troubles s'adoucissent avec le temps. Bon.
Après, tu parlais de causes physiologiques. C'est vrai que la recherche est en cours. Donc, de toute façon, il y a des facteurs biologiques, mais on ne connaît pas tout. La recherche est en cours et il y a souvent des revirements de position sur ce sujet. Hein, on peut parler de problèmes endocrinaux, de problèmes de sécrétion d'hormones, sérotonine, tout ça. Mais des fois, on peut parler aussi de phénomènes inflammatoires. Donc il y a vraiment des causes complètement différentes. Enfin, des chercheurs sont en train de travailler dessus, plus aux États-Unis qu'en France, malheureusement. Mais du coup, on ne peut pas encore parler de... On ne peut pas affirmer des causes physiologiques pour l'instant claires voilà, et précises.
C'est la surprise.
Voilà. Oui, bonsoir. Tu as passé rapidement tout à l'heure sur la famille et l'entourage. Or, ce sont les premiers qui repèrent les phases d'hypomanie. La famille et l'entourage. Bon, le conjoint, le mari et la famille. Et ce sont eux qui repèrent en premier. Parce qu'il faut dire qu'on est tellement bien dans ces phases de montée en lipomanie qu'on repère difficilement. Ce sont surtout l'entourage et la famille qui repèrent ces phases-là.
Bah, je dirais que ça dépend des gens. Parce que dans mon cas particulier, c'est la psychologue qui l'a repéré et l'entourage, il n'a rien vu du tout.
Ça, c'est rare.
C'est la raison aussi pour laquelle je me base vraiment sur mon vécu à moi. C'est que je sais que les histoires sont vraiment différentes d'une personne à l'autre. Et j'étais en tête de peloton pour ce qui était de comprendre ce qui m'arrivait. Et en fait, mon entourage était derrière. Je les tenais au courant. Genre, j'ai découvert ci, j'ai découvert ça, j'ai remarqué ci, ça. On a discuté de ça avec mon médecin. Mais pour moi, c'était moi qui étais active dans le processus bien plus que mon entourage. Après, il faut savoir aussi que voilà, moi, je suis réunionnaise, je suis partie jeune de chez moi, ma famille était loin, donc ils ne sont peut-être pas les mieux positionnés pour avoir vu ou compris quoi que ce soit. Surtout que, comme je disais, quand ça a commencé, que j'étais encore chez eux, bah, personne n'a rien vu, ni moi, ni eux. Donc c'est peut-être aussi une situation qui est particulière dans mon cas, où il a fallu que je sois hyper active dans le processus de diagnostic. Et il a fallu que je me pose des questions parce que personne n'allait me sauver à ma place. Et c'est vrai que pour des gens qui sont peut-être plus entourés ou dans des situations différentes ou moins peut-être proactifs dans la démarche, l'entourage, oui, a une place importante, c'est évident. C'est évident.
Merci.
De rien.
Merci. Oui, moi j'aurais voulu savoir, en tant que bipolaire et ayant un fils qui pourrait être diagnostiqué pareil, qui est dans le déni et quelle approche on pourrait avoir pour qu'il puisse consulter un médecin puisque étant dans le déni il ne veut pas quoi.
Ouais, je sais pas si je suis ouais voilà, faut lui faire lire le bouquin. Non, c'est vrai que ça a marché pour certaines personnes hein, qui l'ont lu et qui se sont, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, dire je suis malade mentale, c'est chaud quoi. C'est super chaud à accepter et le fait de passer, de comprendre les choses, de voir les choses par un autre aspect en passant par un rapport avec un renard qui est personnel dans lequel on peut investir vachement de ce qu'on est, c'est peut-être plus doux. Je sais pas en fait, je sais pas du tout. Je sais pas.
Tu parlais tout à l'heure sur ton site que tu as fait avec Goupiloufas d'un petit questionnaire. En quoi il est question exactement, justement, pas pour s'autodiagnostiquer, mais pour se dire si oui ou non, on pourrait peut-être avoir un rapport avec la cyclothymie ou qu'est-ce qui va apporter ce texte et qu'est-ce que c'est justement comme question ou comme interrogation qu'on doit faire sur soi et comme travail. Parce que je me pose la question, comment on fait du coup pour s'en rendre compte quoi.
Alors en fait, donc le test en question, c'est un outil diagnostique qui est utilisé par les psychiatres et les psychologues dans le processus de diagnostic, donc qui est en complément avec d'autres outils, avec des entretiens, avec des observations, etc. Et donc j'ai eu l'autorisation du docteur en touche pour le reproduire. Où du coup, les questions sont posées. Alors, ce sont pas des questions en fait, ce sont des affirmations du type. Je me lis très vite avec les gens, puis je les oublie complètement. Ça m'arrive d'être très déprimée un jour, puis très en forme le lendemain. Et en fait, voilà, c'est toute une série d'affirmations auxquelles on coche oui ou non. Et en fait, au-delà d'un certain score, ça peut indiquer la présence d'un trouble de l'humeur, ou pas forcément, mais en tout cas, si le score est bas, il y a peu de chance. Mais du coup, ça peut aider en fait, certaines personnes qui ont peur de faire la démarche d'aller jusqu'à un médecin, et de se confronter à des tests, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur d'être évaluées, d'échouer quelque part. Et voilà, ça permet d'avoir accès en fait, à ces informations-là avant de faire la démarche d'aller voir un médecin. J'ai précisé un million de fois, en dessous, à côté, autour, surtout, ça ne suffit pas en fait. C'est juste un indice en plus pour vous, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément quelles questions se poser. Enfin, c'est vrai qu'on a tous des variations d'humeur. Donc, est-ce que les miennes sont pathologiques ou est-ce que c'est juste la vie normale et voilà. Donc voilà, c'est juste un outil en plus que je propose parce que j'ai eu la chance du coup d'échanger avec le docteur en touche et d'avoir accès à ces questionnaires-là. Et je pense que ça peut être un déclic pour les gens de se dire, ben, si j'ai fait un certain score au test, du coup, ça vaut peut-être le coup d'aller confirmer ça en allant voir un médecin, plutôt que d'être bloqué avec des questions et pas vraiment d'éléments de réponse, en fait. En plus, c'est toujours rigolo de cocher des cases et de voir le résultat à la fin. Mais ça, c'est mon côté développeuse. J'aime bien faire des trucs qui bougent tout seul.
Du coup, tu parles dans le livre, à la base, tu as plutôt une formation donc développeuse web design.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Non, je me plante.
C'est normal. À la base, je faisais du jeu vidéo, en fait.
D'accord.
Mes études, c'était du jeu vidéo et pas du tout du côté développement ni du côté graphisme. J'étais dans la conception, donc les règles du jeu. Par exemple, si je concevais un Monopoly, ce serait qu'est-ce qui est écrit sur les cartes, comment on positionne les cases, quel est le prix des maisons. Voilà. Ce qui fait que le joueur s'amuse, en fait. Chose que je pense que j'ai gardée un peu dans ma façon de concevoir des livres.
C'était là que je voulais en venir, parce que il me semblait que tu n'avais pas une formation de bande dessinée à l'origine. Et en lisant ce livre, j'ai trouvé vraiment que l'utilisation des codes de la bande dessinée pour le côté didactique et pédagogique était vraiment, vraiment bien vue. Et savoir quelles étaient tes influences à ce niveau-là, qu'est-ce qui t'avait influencé pour mettre ça en forme ?
Comme beaucoup d'auteurs de BD, je lis très peu de BD parce que j'ai pas les sous et pas le temps. Mais bon, forcément, voilà, j'ai lu. J'aime beaucoup ce genre de BD, les BD médicales, les BD didactiques. Donc entre Scott McCloud et comment elle s'appelle, Zviane, qui est québécoise, qui fait aussi des chouettes BD didactiques. C'est vrai que j'en ai lu pas mal. Mais en fait, pour comprendre mon rapport à la bande dessinée et au dessin, il y a un élément qui est super important. Il y a 9 ans, j'ai fondé sur Internet un site communautaire les gens font du dessin, de la bande dessinée ensemble. En fait, on est tous dans la même histoire, chacun va jouer un des personnages, et en fait, on interagit comme ça, en live, on improvise. C'est pas nécessaire de bien dessiner, c'est beaucoup des amateurs qui sont là, beaucoup des gens plus jeunes que moi, parce qu'il faut avoir le temps quand même de faire ça. C'est un loisir qui est très, très chronophage. Et du coup, à l'heure actuelle, il y a à peu près 2000 dessinateurs du monde entier qui sont inscrits dessus, et on fait une centaine d'images qui sont postées chaque jour. Et en fait, pour moi, c'est vraiment de là que vient mon rapport à l'image didactique, parce que du coup, comme j'ai fondé le site, bah, j'ai aussi énormément encadré les gens et j'ai essayé de leur apporter des choses. Alors du coup, j'ai appris en même temps qu'eux pour pouvoir leur proposer pour qu'un topic soit compréhensible et que les gens aient envie de participer derrière, il faut que les règles soient claires, il faut que l'introduction soit jolie, c'est vraiment tout un ensemble de choses que j'ai apprises en essayant de communiquer par le dessin avec des gens qui n'étaient pas dans la même pièce que moi via Internet. Et donc le forum dessiné, c'est mon chez-moi virtuel, en fait. C'est là où je partage avec les gens, c'est là où je passe énormément de temps, c'est là où je m'entraîne pour mes prochaines BD, où je me dis il faut que j'apprenne un peu la couleur, donc je vais profiter, je vais faire des histoires en couleur parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression, et du coup ça me permet de tester plein de choses. Je pense que c'est ça en fait qui a forgé le plus mon identité en tant qu'auteur, c'est que je dessine avec les gens en fait tout le temps. Enfin, ça fait 9 ans, j'ai posté plus de 7000 dessins sur le forum, j'en fais tous les jours. Enfin, c'est comme un univers virtuel auquel j'ai accès par le dessin et qui me pousse à beaucoup prendre en compte la personne qui est derrière le livre, derrière l'écran, le lecteur, la personne qui va me répondre. Parce que si je veux qu'il y ait un échange, il faut que ce soit cool pour la personne en face aussi. Il ne suffit pas juste de déposer mes idées et maintenant vous pouvez les lire et vous pouvez contempler ce que j'ai pensé. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il y ait une construction, que ça donne envie d'être lu, que ça donne envie qu'on réponde. Et voilà, c'est ma maison.
Une dernière question, peut-être ? Non ?
Bon. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous.
Et donc, pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire dédicacer vos livres. Et pour ceux qui n'auraient pas encore le livre, il est possible de l'acheter. On en a quelques exemplaires. On prend pas c'est par chèque ou en liquide uniquement, on prend pas la carte bleue et le livre est à 15 euros. Et tu n'as plus de...